Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut, bienvenue dans Vacarme en Réunion. Aujourd'hui on est trois, il y a Yves, Justine et moi, Jabber, pour animer cette émission. Du coup, on va commencer tout de suite avec une petite évocation de l'actualité des violences policières. Donc, cette semaine, vous n'avez pas pu le manquer, vu le barouf médiatique que ça a fait. Voilà, l'histoire autour de Théo, ce jeune de la cité des 3000, il me semble, à Aulnay-sous-Bois, qui s'est fait violemment agresser par les policiers jeudi dernier, il y a 10 jours, du coup. Et voilà, et ça a été particulièrement bien géré cette fois-ci par les autorités, puisque le maire de Aulnay-sous-Bois, alors que c'est un ancien flic et qu'il est au Parti Les Républicains, il est lui-même monté au créneau en demandant à ce que justice soit faite, à ce que les policiers soient poursuivis judiciairement, etc. Ils ont tenté par tous les moyens d'étouffer un peu le feu qui se propageait dans les cités alentour, mais pour l'instant ça perdure et on comprend pourquoi, vu que voilà, Théo s'est fait violer par un policier, on peut le dire comme ça, puisque c'est l'accusation qui repose sur lui. Donc il commence à se passer des choses ailleurs que dans les cités de Seine-Saint-Denis. Il y a eu des manifestations notamment à Paris, à Nantes et à Rennes. Ça continue dans les prochains temps. Il y en a une ce week-end, là, samedi à Paris. Et à lundi, on vous donne rendez-vous, du coup, il y a un rendez-vous qui est donné lundi prochain, du coup le 13 février, place du Barrezet à Dijon, pour manifester contre les violences policières.
À 18h.
À 18h, pardon, voilà. Et du coup, on voulait revenir un peu sur cet événement-là, notamment parce qu'il y a tout un contexte, en fait, qui entoure cette affaire-là. C'est déjà celui de l'état d'urgence depuis maintenant plusieurs années, qui s'accompagne aussi des revendications des policiers. Là, il y a eu les manifs au début de l'année où ils réclamaient, après l'agression à Viry-Châtillon, plus de moyens, plus d'armes, etc. Il y a une loi dont Yves va parler juste après, qui vient de passer à l'Assemblée, qui leur permet un port d'armes élargi. Il y a toute la question de la légitime violence, etc. Voilà, donc il y a ce contexte-là, législatif. Il y a le contexte aussi sur le terrain, du coup, d'une espèce d'apparition d'armes de guerre qu'on a vu cet été à Beaumont-sur-Oise, qui a été à la fois évoqué et à la fois peu discuté, peu débattu. Donc on a vu des photos, très belles photos. Moi, j'étais tombé sur un portfolio de je ne sais plus quel journal quelconque, où on voyait les flics, les gendarmes en intervention dans la cité de Beaumont-sur-Oise après le meurtre d'Adama Traoré, qui se baladait avec des fusils d'assaut. Voilà, et puis les photos étaient, voilà, c'est je sais pas, les photos, on aurait presque dit de la mise en scène, quoi, comme si ça faisait partie de leur arsenal contre-insurrectionnel, quoi, de se montrer avec des armes de guerre dans la cité. Voilà, donc il y a tout ce contexte-là, un peu apeurant, on peut le dire, qui accompagne cette agression d'un policier au cours d'une arrestation banale. Voilà, donc c'est un peu on se doute bien que là-dessous, ça recouvre comme toujours une réalité qui doit être multiforme, et voilà, il doit y avoir tout le temps des violences. Voilà, mais aujourd'hui, les gens se rebellent contre ça, et du coup, c'était important d'en parler. Du coup, peut-être que Yves, tu peux revenir tout de suite sur la loi dont...
Bah, on va dire qu'effectivement, c'est un espèce de drôle de concours de circonstances, parce qu'effectivement, voilà, au vu de tout ce qui est en train de se passer à Aulnay-sous-Bois, et donc les violences faites à Théo, la réaction en fait, localement, et puis comment solidairement d'autres personnes en fait, décident d'organiser des manifestations là, pour protester contre les violences policières. Oui, en fait, cette coïncidence, c'est que cette semaine, mercredi dernier, donc le 8, à l'Assemblée nationale a été votée une loi. Et c'est laquelle ? C'est le projet, en fait, de la loi sécurité publique qui a été adoptée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi ? C'est un truc qui avait été justement revendiqué lors des manifestations des flics qui étaient montés... donc là, à Paris, genre après les événements, genre après que des flics se soient fait agresser... au cocktail Molotov. Et c'était quoi leur exigence? C'était justement d'avoir de plus de moyens, en fin de compte, plus de moyens, en fait, pour intervenir dans ce genre de cas. Et là, c'était l'extension, en fait, des règles d'ouverture de feu dans ce genre de situation. Alors, c'est quoi? C'est d'habitude, c'est la gendarmerie qui peut, dans certaines circonstances, elle est habilitée, en fait, en cas de menace de personnes armées, ou alors dans des cas où ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, et donc s'ils se sentent menacés de pouvoir utiliser l'arme à feu, ou lorsqu'une personne en fait cherche à échapper à leur garde et qu'elle est une menace pour les gens, en fait pour le public, ou dans un autre cas aussi quand un véhicule est en fuite et représente lui aussi une menace, eh bien les forces de l'ordre, du moins les gendarmes sont habilités en fait à utiliser leurs armes à feu. Ben maintenant en fait ça s'étend à la police nationale. Et donc, ce qui est quelque chose d'assez fou, dans la mesure où, genre, là, on est tout à fait dans le cadre d'une sorte de bavure. Enfin, voilà, quoi, genre, c'est ça qui a été... Ce d'autant que là, en fait, il n'y avait personne à l'Assemblée nationale. Ils étaient vraiment, mais genre, un tout petit nombre, je ne sais plus quoi, ils étaient une trentaine. Ils ont voté ça à l'arrache, et puis, et voilà. Et bon, bah, ça n'a pas fait l'unanimité. Je crois qu'il y avait juste une personne ou deux qui étaient contre. Mais sinon, tout ce qui était PS, droite, etc., étaient à 100% d'accord avec ce truc-là, quoi. Donc, ça veut dire que... c'est assez fou parce que c'est ça, c'est l'extension en fait d'un nouveau degré de violence. C'est-à-dire que justement en fait ce qui est en train de se passer là à Aulnay-sous-Bois, ça nous dit en fait le rapport de force qui est posé en fait par la police et les risques qu'encourent les gens en fait qui sont apostrophés en fait par la police. Et là genre ça va pouvoir mener à des dérives, on peut supposer, et surtout ça, à chaque fois ils vont pouvoir mettre en avant, bah, c'était de la légitime défense, je me sentais menacé, etc. enfin il y a tout un truc comme ça qui est quand même assez flippant en fin de compte, où ça leur donne, ça va pouvoir couvrir en fait énormément d'affaires. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, tu vois.
Et du coup ça rajoute une petite chose par rapport à ça, c'est que voilà, on parle d'armes à feu, d'armes létales, mais ça, c'était aussi, il y a eu aussi tout un mouvement ces derniers temps, donc là j'ai plus les dates en tête, etc., mais autour du flashball, quoi, il y a eu une généralisation du flashball, et voilà, et que ça a amené un nombre de mutilations assez conséquentes dans les quartiers, dans les manifestations, etc., quoi. Du coup on est face un peu à une escalade, et j'aimerais vous lire juste deux paragraphes d'un appel à rassemblement qui a émané de Rennes la semaine dernière en soutien à ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois, pardon, et qui évoque ça. Du coup je vous lis ces deux paragraphes. La nouveauté, c'est que la troupe tire de nouveau sur la foule. On sait, avec la généralisation du flashball, que la police s'est habituée à prendre la population pour cible. Cet été, les gendarmes ont sorti les fusils d'assaut HKG-36 à Beaumont-sur-Oise pour maintenir l'ordre dans le quartier où ils avaient préalablement tué Adama Traoré. Cette fois, ils s'en sont servis. Nous sommes entrés dans l'ère de la guerre civile véritable. L'État gère les révoltes avec des armes de guerre. Il ne dépend que de nous de laisser faire ce nouveau glissement sécuritaire. Personne ne réagira à notre place. Seule la rue peut enrayer cette sordide mécanique. Faisons obstacle au déploiement de la logique policière et militaire. Ils réclament l'impunité et un armement sans limite. Mettons-les hors de nuire. Voilà. Du coup, ça nous permet de revenir sur un événement. Du coup, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est que, voilà, effectivement, ils évoquent le fait que la police tire sur la foule. C'est qu'il y a des baqueux dans la cité qui sont défendus avec leurs armes. Parce qu'ils étaient encerclés, voilà, donc ils ont commencé par tirer en l'air, puis après à proximité, au-dessus un peu de la tête des gens, quoi. Donc on est bien dans ce régime un peu d'escalade, et c'est là-dessus que se basent un peu les appels à rassemblement qui commencent à émerger à droite à gauche.
Ouais, et je crois que cette référence à ce glissement, au fait que maintenant la police tire sur la foule, c'est entre autres tiré des analyses qui sont assez justes et assez intéressantes de Pierre Douillard-Lefebvre dans le livre qui est sorti en septembre, qui s'appelle L'arme à l'œil, et dont vous avez passé une interview que vous pouvez retrouver là, qui c'est sur tvnr.noblogs.org, qui s'appelle L'arme à l'œil, et où lui il expliquait, voilà, ce glissement, comme quoi pendant toute une période les armes policières et contre-insurrectionnelles avait balayé, ça faisait partie de l'histoire ancienne, le fait de tirer sur la foule, c'est-à-dire qu'on ciblait précisément des personnes qui auraient commis des délits, etc. Et que, entre autres, le flashball avait réintégré dans les pratiques policières et de sécurité le fait de tirer sur n'importe qui, en fait. Et on voit très bien dans les manifestations du printemps, mais bon, j'imagine qu'il y a plein d'endroits qui sont moins médiatisés dans lesquels ça se passe régulièrement. Que voilà, n'importe qui peut être touché, même des gens qui étaient tout à fait dans la légalité, quoi.
Du coup, je pense qu'on peut passer un peu de musique pour avant de passer à la suite. On va donc juste vous signaler les rendez-vous dijonnais en rapport avec ces histoires-là. Du coup, on a dit il y a lundi 13 février, donc demain, à Dijon, place du Barrezet, 18h, un rassemblement. Et ensuite, ça sera le 24-25 mars. Dans un lieu à préciser, mais a priori il y aura une manifestation en ville le samedi autour du coup de l'histoire d'Adama Traoré avec normalement la famille qui viendra et sûrement ça sera élargi avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, du coup 13 février et 24-25 mars, on envoie de la musique et on revient pour la suite de l'émission. Que le set musical de cette émission tournera autour du Kurdistan, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Du coup, voilà, Vacarme en Réunion, on revient pour cette fois. Voilà, le projet, c'était de parler de la Syrie, de la guerre civile en Syrie et du Kurdistan. Pourquoi ? Bah, d'abord parce qu'on fait, voilà, il y aura une discussion mercredi 18 au Tannery. À 18h. Mercredi 15 à 18h. Du coup, discussion autour du livre Anatomie d'une guerre civile, Syrie, Anatomie d'une guerre civile. Et voilà. Et j'aimerais bien remonter un peu avant pour vous expliquer. Enfin, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'en fait on a eu envie de parler de ça. Et du coup, voilà, ces derniers temps. Notamment, il y a eu tout un mouvement qui a tenté de s'organiser, qui tente de prendre. Autour de la présidentielle, un peu en marge de la présidentielle et pour échapper au jeu politique qui nous écrase un peu actuellement. Et dernièrement, il y a eu un week-end à Paris qui s'est intitulé « Génération ingouvernable ». Et voilà, j'aimerais vous lire deux paragraphes d'un peu l'espèce de conclusion quoi, collective qu'il y a eu, qui est un texte que vous pourrez retrouver sur le blog de TVNR. Voilà, donc je lis. « Nous sommes de celles et ceux, toutes celles et ceux, qui ne supportent plus d'être complices des politiques de guerre extérieure et intérieure menées par les puissances occidentales. Nous voulons aujourd'hui rendre impossible à quiconque de prétendre mener la guerre, trier les populations, mettre en coupe régler des sociétés entières au nom de la lutte antiterroriste, au nom de notre sécurité. Ainsi, nous nous plaçons dans le sillage de l'ensemble des révoltes et soulèvements qui ont ébréché l'ordre du monde depuis 2011. Des printemps arabes aux occupations de places et de territoires comme la ZAD ou le Val de Souza. En France, les luttes des dernières années ont créé la possibilité de zones hors droit, reprises des mains de l'État et de la valorisation capitaliste, où d'autres manières de vivre et de s'organiser s'expérimentent au grand jour et à des échelles toujours plus importantes. Nous sommes convaincus qu'aller de l'avant après les révoltes du printemps et de l'été commence par renforcer et multiplier ces zones hors contrôle comme autant de moyens de renforcer notre ingouvernabilité. Outre ces zones désormais visibles, un ensemble de gestes se sont ces derniers temps multipliés. Les multiples gestes de solidarité vis-à-vis des migrants, les cantines populaires, les groupes de travail qui cherchent partout à donner des suites à l'esprit du mouvement, les radios locales, les lieux occupés, les collectifs de défense, les comités contre l'état d'urgence, contre les violences policières, contre les oppressions. Voilà, du coup, vous pouvez retrouver le texte en entier sur le blog. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que ça tissait une continuité entre ce qui se passe en France en ce moment, du coup, autour des violences policières, autour des migrants, autour d'une défection par rapport au présidentiel, une tentative d'inventer la politique d'une autre manière, et ce qui s'est passé dans les printemps arabes et ce qui se passe encore aujourd'hui en Syrie. Voilà. Et du coup, maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à la Syrie? C'est une question qui est pas évidente, étant donné l'état actuel de la guerre là-bas, où les partis en présence... enfin voilà, c'est une situation qui est complexe et où la dimension étatique est telle, et les intrigues diplomatiques et géopolitiques sont telles qu'on a du mal à se repérer et à pouvoir s'y rapporter. Mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, étant donné que avec l'arrivée de l'État islamique, l'implication de la France, toute la rhétorique autour du terrorisme, etc., il y a une nécessité pour nous de au moins comprendre et de se poser la question de comment on pourrait se saisir de ce qui se passait là-bas. Il y a un truc qui m'a pas mal marqué, c'est une fois, on attendait une conférence de quelqu'un qui bosse à l'Observatoire des armements et qui présentait un peu c'est quoi l'implication de la France en termes de commerce d'armes, ses implications avec la péninsule arabique, etc. Et quand vous êtes face un peu aux chiffres, aux données, à l'importance que ce commerce-là a pour la France, d'un coup, ça vous fait un peu sortir de l'espèce d'évidence que oui, on fait partie de tous ces embrouilles-là, que la France fait partie de tous ces embrouilles-là, et ça vous donne un peu plus envie de vous dire non, mais il y a quelque chose qui nous échappe complètement, et il y a quelque chose dont on doit se ressaisir, et aller questionner, au moins poser des problèmes à ce niveau-là, poser des problèmes à la manière dont notre pays fait la guerre, etc. Voilà. Et... du coup, c'est un peu le niveau zéro, j'ai envie de dire, voilà, on est en France, malgré nous, on est pris dans ces jeux-là, et il y a quelque chose à en faire, à en penser, et une pression à mettre sur le gouvernement par rapport à ça, ce qui était dit dans le texte d'ailleurs. Voilà, après...
C'est aussi s'intéresser à ça, c'est aussi une très bonne manière de faire exploser la binarité... terrorisme, antiterrorisme, un peu avec laquelle on nous bassine dans les médias, comme s'il y avait l'Occident qui ferait face à Daesh. Et puis bah, voilà, tu sais pas trop comment choisir ton camp quand il y a des trucs aussi dégueulasses qui s'opposent. Et quand tu commences à plonger un peu dedans et à comprendre les situations, ça permet de faire exploser les camps et aussi de construire une position qui te soit propre et
appréhender en plus la complexité en fait de ce qui se passe là-bas, c'est ça quoi, c'est ce que tu disais, c'est pas binaire du tout, et on est à mille lieues en fait de comprendre, alors c'est le propos de toute cette émission en fait, de comprendre effectivement les enjeux, la complexité en fait, les acteurs qui sont en jeu, qui, quoi, comment en fait, les populations qui sont souvent en fait, on les voit en fait en tant que victimes en fait, on en entend peu parler, ou ce genre de choses quoi, enfin, au mieux on a les gouvernements, genre les grands acteurs internationaux que sont Russie, que sais-je, et on voit ça, voilà, quoi. Enfin, pour moi, il y a aussi un déni de la population, où il y a quelque chose comme ça, quoi.
C'est d'autant plus vrai ces derniers temps, effectivement, qu'il y a une espèce de recouvrement étatique, et la question qu'on peut se poser, c'est d'un point de vue plus de, voilà, révolutionnaire, quoi. Qu'est-ce que ce serait une sorte d'internationalisme, non pas au sens d'un grand mouvement tel qu'on a pu le connaître au XXe siècle, etc., mais quelle sorte de lien on peut avoir avec ce qui se passe là-bas, qui passe sous le jeu un peu interétatique, quelle sorte de solidarité il peut s'expérimenter, et c'est déjà le cas, mais voilà comment on peut se saisir volontairement de ça et aller un peu plus loin. Voilà.
Comment s'approprier en fait ces questions-là, quoi. Enfin, voilà. Nous, en fait, comment on s'approprie ça, quoi. C'est à l'échelle de ce qu'on veut et de ne pas être passif, en fait, face à ces événements-là.
Et du coup, pour illustrer un peu ça, j'aimerais bien évoquer du coup le livre dont on va se servir pour parler de la Syrie. Et il a été écrit par un collectif de chercheurs et il y en a un d'entre eux qui est associé avec d'autres et qui ont publié des communiqués à plusieurs moments pendant la guerre civile. Et bon, ça revient un peu en dessous de la prétention qu'on a exposée parce qu'eux, ils s'adressent surtout dans leur communiqué, voilà, donc c'est des chercheurs d'abord qui cherchent à comprendre ce qui se passe là-bas et ensuite qui ont nécessairement dû prendre position. Et eux, voilà, ils sont surtout adressés au gouvernement et aux puissances occidentales. Du coup, je reviens un peu en deçà de ce qu'on disait. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de voir un peu l'évolution de leur discours. Du coup, en 2013, il y avait un texte que j'ai trouvé sur Le Monde, qui s'intitulait « Renforcer la résistance démocratique en Syrie ». Et voilà, et où c'était un peu un constat qu'il y avait une méconnaissance, même au niveau gouvernemental, de ce qui se passait là-bas, et qu'il fallait apporter un soutien financier et militaire à certaines portions de la lutte armée, et qu'il fallait arrêter avec l'espèce de rhétorique où, voilà, en fait, sous la révolution, il y avait l'islamisme, etc., ce truc qui commençait à monter déjà en 2013 et qui a complètement envahi le champ de compréhension aujourd'hui. Et voilà, il y a une espèce de multiplicité de groupes qui se battent. Il y avait plutôt une espèce d'unanimisme, comme ils le disent dans le livre de la Révolution, quoi. C'était un truc général qui, justement, était faiblement marqué idéologiquement et pas du tout marqué par l'islamisme, même s'il y avait des groupes déjà présents dès le début, quoi. Mais et voilà, et du coup c'est un peu un appel, voilà, à avoir une lecture un peu plus intelligente de ce qui se passe, un peu plus qui fait un peu plus attention à la diversité et à se poser la question de comment le fait qu'une non-intervention occidentale, en même temps, elle fait le jeu de ce qui se joue localement, et que voilà, et en fait c'est ça qui est un peu compliqué pour nous, c'est que ce qu'on observe de manière générale, c'est que de toute façon, il y a un jeu à partir du moment où la guerre s'installe dans la durée, il y a un jeu de financement, il y a un jeu d'appui de puissance locale, et tout ça vient fragmenter.
Est-ce que c'était justement pour leur propos, c'était de dire ne pas rester neutre, en fait, neutre, enfin, la neutralité, c'est aussi, en fait, d'une certaine manière, prendre le parti, en fait, de laisser tout partir en sucette. Et leur propos, c'est de dire, en actant que nous, on commence vaguement à comprendre ce qui se passe, il faut prendre parti, en fait. Il faut d'une certaine manière, en fait, s'engager, comme tu le disais, via des financements ou des choses comme ça, des interventions qui auraient pu permettre, en fait, d'aider, je sais pas comment s'appelle le mouvement, justement, en fait, l'armée de libération.
Ouais, la SL, quoi, l'armée de sirène de libération.
Ouais. C'est, en fait, l'idée, c'était ça. C'était en gros, il faut, en fait, il faut s'investir. Il faut pas laisser, en fait, le truc passer comme ça.
Après, j'ai l'impression que une manière plus simple, peut-être, de poser le problème, c'est pas tant de pousser les puissances occidentales à s'investir que de dire, voilà, la lecture de la situation qu'on peut avoir, c'est ça, qu'est-ce que vous faites, quoi. C'est-à-dire poser des problèmes et mettre face à leurs contradictions les États et voilà, et faire bouger les lignes sans prétendre s'inscrire dans cette politique-là, quoi. C'est un peu plus ça qui, à nous, peut nous parler, parce qu'évidemment, on va pas s'engager, enfin, on va pas demander aux puissances occidentales de s'engager, quoi. Mais c'est plus questionner leur politique et briser un peu les compréhensions rapides, quoi. Du coup, maintenant, on peut essayer de, voilà, parce que il y a aussi qu'est-ce que ces révolutions là elles ont à nous apprendre, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on observe dans la révolution syrienne, c'est que en fait l'espèce de perte de la flamme révolutionnaire, elle vient avec l'enlisement, elle vient avec la durée du conflit. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une espèce de mouvement de souffle un peu voilà, unanimiste, comme ils disent, où il y a une espèce de circulation, une fluidité, quoi, où la révolution, elle est pas du tout prise dans des déterminations identitaires, etc. Et voilà, il y a une circulation, que ce soit en termes de forces armées, de lutte, de construction d'institutions, etc. Il y a une grande fluidité, et plus ça dure, plus il y a la question des financements qui se pose, plus il y a une territorialisation, plus il y a des lignes de front qui se démarquent, plus il y a des groupuscules qui se construisent et tout ça se fige et va amener à la situation qu'on un peu inextricable qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Du coup, voilà, c'est un des premiers aspects. Et ensuite, ce pourquoi ça nous paraissait important aussi de parler de ça, c'est que finalement, cette situation, elle va aussi attirer plein de gens en Occident. C'est-à-dire que voilà, que ce soit ce qu'on peut voir avec toutes les personnes qui rejoignent Daesh, ce qu'on peut voir aussi avec les gens qui rejoignent le Rojava, les pays gays, quoi, du coup, les milices kurdes syriennes. Ou alors même dans l'armée américaine. Là, récemment, il y a un film qui est sorti, un film américain qui est sorti, qui montre comment la société américaine, elle est tellement déliquescente qu'il y a plus de camaraderie et de chaleur qui se trouve même au sein des rangs de l'armée, quoi. Du coup, voilà, c'est toute cette question qui travaille la jeunesse un peu occidentale dans le rapport avec ce conflit-là, quoi. Et du coup... maintenant, on peut s'enfoncer un peu plus dans le détail de l'histoire, quoi, de ce qui s'est passé là-bas. Et du coup, Yves, toi, tu voulais présenter un peu en introduction ce qu'était le régime syrien avant la révolution, pour qu'on puisse un peu discuter
Tout précisément à fait.
De ce qui s'est passé.
Bah alors, ça sera assez court, mais c'est effectivement le terreau, en fait, d'où tout part, donc cette révolution syrienne. C'est pas peu, en fin de compte, ce qu'a été la Syrie et ce qu'elle est. Et d'ailleurs, on voit en fait ce qu'il en est de la brutalité avec laquelle le gouvernement de Bachar al-Assad justement négocie, entre guillemets, genre pour euphémiser en fait le rapport de force. C'est terrifiant, hein, c'est d'une cruauté infinie. Et c'est aussi ça qui nous désempare un peu, quoi, genre au vu de tout ce que ça avait ouvert en 2011, ce que tu dis, l'insurrection ensuite, et ce qui était en train de se formaliser, en fait, toutes ces dynamiques hyper constructives apparemment. Et donc, ouais, c'est de revenir un peu et expliquer, c'est quoi en fin de compte un régime, le régime, je vais appeler ça le régime al-Assad, parce que bien entendu, c'est une famille, quoi. Et donc, Bachar al-Assad a été dans la continuité de son père. Hafez al-Assad. On va revenir très rapidement, succinctement, aux origines de la Syrie. Eh ben, c'est quoi ? C'est, on va dire, 1918. Il y a l'Empire ottoman qui est en déliquescence. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. T'as deux forces occidentales, la France, l'Angleterre, qui vont partager de manière hyper arbitraire, mais en même temps, vous pensez bien qu'il y a des intéressements diplomatiques forts, en fait, et puis c'est pour se positionner, genre par rapport au carburant, au pétrole, au potentiel, en fait, qui est toujours là, etc. Donc, l'Angleterre et la France vont partager de manière complètement arbitraire toute cette région-là, qui, donc, faisait partie de la Grande Porte, c'est-à-dire, en fait, de l'Empire ottoman, et ils vont dessiner la Syrie, selon des critères vraiment très étranges, l'Irak d'un côté, la Cisjordanie, la Palestine. On pouvait dire qu'avant, tout ça, c'était un grand ensemble qui était connu en fait, des Arabes, en fait, comme étant ce qu'ils appelaient le Bahr el-Cham. Donc en fait, c'était le pays qui est au nord de la Mecque. Voilà. Et c'est un territoire qui est authentiquement arabe, hein, au niveau de la culture. Donc ça c'est une chose. Ce qui va se passer, c'est que bon, là, on s'intéresse à la Syrie. La Syrie, en fait, elle va être commandée par la France à travers en fait un mandat particulier. Donc c'est une forme de colonie qui est plutôt une sorte de conseil, genre interventionnisme, genre non militarisé. Après, il y a quand même l'armée française qui est sur place. Donc la France va rester en Syrie durant une vingtaine d'années. Il va y avoir bien sûr des mouvements en soi. Alors en fait, il y avait une assemblée, c'est-à-dire une assemblée syrienne, et puis vous aviez en fait des plénipotentiaires, en fait des représentants des affaires étrangères français qui étaient là en fait à dire vous faites ça, vous faites ceci, on a des accords économiques particuliers, tout ça s'était imposé. Mais bon, il y avait toujours ce semblant en fait de démocratie à travers l'assemblée syrienne qui se laissait pas faire, on va dire, et a su toujours essayer de discuter la légitimité de la France, etc. Donc ça a mené à de successives, interventions, enfin luttes sociales qui ont été souvent réprimées dans le sang, je parle en 1925 ou d'autres. Bon, dans la continuité de ça, l'indépendance, elle arrive très rapidement en 1943. C'est pas anodin, c'est simplement que la guerre en fait a lieu en Europe. La France a les deux pieds dedans parce qu'elle est occupée par les Allemands. Elle peut plus tenir en fait ce territoire-là. Donc elle le lâche. Elle lâche en fait beaucoup de ses territoires, le Liban et autre part. À partir de ce moment-là, tu as en fait une sorte de sentiment de liberté. Et là, il y a énormément de gens, toute une population, en fait, la grande bourgeoisie syrienne qui va ruer sur le trône, en fait, sur le pouvoir, et essayer de démêler tout ça. Bon, en fait, ça va durer une dizaine d'années, donc c'est un lieu en fait où tout est possible. Il y a énormément de courants islamistes, donc on va dire des national pan-arabes, donc parce qu'il y a une idée générale qui est tenue par beaucoup de pays, que ça soit l'Irak, que ça soit la Syrie, ou que ça soit, admettons, la Cisjordanie, il y a toujours une intention de reconstituer l'unité perdue du monde arabe, en fait, de ces régions-là. Mais chacun le voit à sa manière. Donc ça prête toujours à des conflits d'intérêts, en fait, énormes. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi un mouvement qui est très, très important, qui va se constituer, qui est un mouvement qui s'appelle le Baas, qui est ni plus ni moins, en fait, un projet, un mouvement national-socialiste. Mais clairement, national-socialiste. Bah, c'est quoi ? C'est, on a une vue des... Enfin, vous savez bien que le concept de nation, en fait, est assez moderne. Et puis, c'est, il y a un territoire qui est donné, et on va avoir une culture vraiment authentique de l'arabité qui va être incarnée par la Syrie. Et bien entendu, à partir du moment où la Syrie... adopte ce mouvement-là, en fait, cet état d'esprit-là, il n'y a plus qu'à l'étendre à l'Irak et autre part. Je ne vais pas rentrer dans les détails en fait, autour, parce que c'est très complexe. Mais ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, le Baas va arriver au pouvoir. Alors, c'est suite à plein de coups d'État, c'est durant une dizaine d'années, jusqu'à avant que le Baas en fait, n'arrive au pouvoir, 1963, il va avoir, 10 gouvernements en l'espace de 10 ans. Donc, en fait, c'est un gouvernement très, très instable. Bien entendu, derrière, il y a les Français, l'Angleterre qui tirent les trucs, qui cherchent à créer des oppositions, des luttes internes et tout ça. Ce qui va se passer, c'est que le Baas arrive au pouvoir. Donc rien n'est fini, au contraire, c'est le début en fait, du calvaire, on va dire, puisque là, très rapidement, en l'espace de 7 ans, il va y avoir des fortes tensions au sein de ce même parti, donc national-socialiste, qui est d'inspiration marxiste. Mais en fait, c'est vraiment c'est une espèce de prétexte pour légitimer en fait, une manière d'évacuer du pouvoir en fait, toute la grande bourgeoisie syrienne. Donc de ce fait, il y a Hafez al-Assad, donc le père de Bachar al-Assad, qui va arriver au pouvoir. C'est un mec qui vient de l'armée, et en l'espace de 7 ans, entre 63 et 70, l'armée va prendre une place considérable. Lui-même, en fait, c'est un officier qui vient de l'armée de l'air, et il va constituer tout un noyau. C'est simple, c'est l'armée va commencer à briguer en fait tous les postes de pouvoir. Il y a un parti, au début il y avait du pluralisme en fait, tout ça va disparaître, ils vont tout centraliser, et c'est le Baas, ça va être ni plus ni moins un gouvernement, un parti et l'armée. Donc en gros, ils mettent en place une dictature, et plus que ça, ils vont mettre en place tout un système très très particulier. Alors le projet en fait de Al-Assad et de ses proches, c'était de dire justement, il y a une telle instabilité politique qu'on n'arrive jamais à s'entendre. La seule manière de le faire, ça va être en fait de verrouiller, donc en fait de contrôler à tous les niveaux les institutions et bien sûr la population. Donc ils vont mettre en place des systèmes de police secrète invraisemblables, mais c'est un nombre, il doit avoir 12 polarités, on va dire, qui en même temps vont se contrôler les unes et les autres. Mais le fait est que Hafez al-Assad va toujours être à la tête du pouvoir, il concentre tous les pouvoirs. Donc ça veut dire qu'il est le chef d'armée, il est le président, il a tous les ministères, etc. Et ça, c'est comme ça que se pose, si vous voulez, l'histoire de la Syrie, en fait, des 30 années qui vont suivre, jusqu'à l'arrivée de Bachar al-Assad. Donc c'est un milieu très très paranoïaque, hyper militarisé, il n'y a pas en fait de possibilité, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Alors bien sûr, dans les années 70, dans les années 80, il va y avoir des mouvements sociaux, mais à chaque fois ça va être réprimé dans le sang, et puis purge de manière systématique, en mode Stal en fait. Ils vont purger systématiquement. Dès qu'il y a des tenants, dès qu'il y a des oppositions, en fait, ils font là, c'est une véritable chasse aux sorcières, et ils consolident leur pouvoir comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est la continuité de ce pouvoir, parce que Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, il a tenu de 70 juste à 2000, donc le jour de sa mort. Il est resté 30 ans au pouvoir, et d'autres ministres ou certains de ses secrétaires sont dans ce cas-là. Donc là, on arrive à l'arrivée de Bachar al-Assad. Donc son père meurt. Lui, il brigue le pouvoir à son tour. Il a une trentaine d'années. Il y a un espoir comme quoi tout ça va en fait se détendre. Rien n'y fait. Alors il y a bien entendu, il ouvre vaguement en fait des possibilités. Oui, on va réouvrir le pluralisme. Oui, vous allez pouvoir vous exprimer. Mais très rapidement, ça ne marche pas du tout parce que il n'est pas seul. Il y a la pression militaire et personne n'entend perdre les monopoles qu'ils ont. Parce que, bien sûr, l'armée possède toute l'industrie, etc., etc. Donc, on en arrive à un seuil où la population a des possibilités, mais elle n'arrive pas à s'exprimer. Alors, je ne rentre pas dans le détail, en fait, parce que ça, c'est plutôt c'est là où ça va t'intéresser toi.
Donc, en gros, la dynamique, c'est y a une espèce de néolibéralisme économique qui se met en place, j'ai l'impression, mais un maintien qui fonctionne comme souvent avec un maintien d'un espèce d'état policier quoi, dans la continuité de ce qu'a construit son père. Quoi.
C'est une sorte de capitalisme d'état, et en fait, le truc, c'est que c'est une élite, à savoir des familles qui sont proches en fait, de la famille Al-Assad. Donc, c'est une espèce de tribu, c'est une cinquantaine de familles qui sont au pouvoir et qui détiennent tous les biens. Puisque tout ça, ça a été nationalisé, et c'est un capitalisme d'État. Ils auront le pouvoir de tout, il n'y a aucun moyen, en fait, de pouvoir ouvrir. Alors oui, il y a un néolibéralisme qui va au bénéfice des gens qui possèdent déjà. Donc tout est verrouillé.
Je pense que c'est ça qui est intéressant de retenir, enfin, pas intéressant, mais important de retenir, c'est l'emprise du système sécuritaire qui s'étend un peu à toutes les dimensions du pays, et c'est ça qui va faire un peu le soubassement de la révolte, et en même temps ce qui va permettre à l'État de survivre malgré l'importance de la révolution. Quoi. Du coup, là, on envoie de la musique et puis on passe sur la révolution syrienne, à proprement parler. Essayer de brosser dans un premier temps un peu une rapide chronologie depuis 2011 de ce qui s'est passé pour qu'on ait un peu les idées en place et pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Du coup, j'ai trouvé sur Le Monde, il y a une espèce d'infographie où il y a des grandes étapes chronologiques comme ça avec plein de vidéos, d'articles, de trucs que vous pouvez aller voir. Et je repars de ça, ça m'intéresse parce que ça... il y a aussi des traces un peu de la vision proprement occidentale de ce qui s'est passé et qui justement coïncide pas tout à fait avec, enfin même pas du tout avec, avec la réalité de l'insurrection. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui a influencé notamment la non-prise de position des Occidentaux dans la guerre, quoi. Du coup, je repars cette chronologie pour la critiquer en certains points. Du coup, il commence en mars 2011 avec un soulèvement pacifique réprimé dans le sang. Du coup, 13 mars ou 18 mars 2011, je ne sais plus exactement, il y avait déjà des petites ébullitions dans quelques villes de Syrie, etc. Mais là, il y a une dizaine d'adolescents qui se font arrêter après avoir fait des tags hostiles au régime. Ils sont torturés, etc. C'est dans la ville de Dera, à l'extrême sud de la Syrie. Et c'est ça qui vraiment fait exploser le soulèvement. Et voilà, donc il y a déjà, ça fait déjà 2-3 mois que voilà, en Égypte, en Tunisie, les dictateurs sont déjà tombés, etc. Du coup, il y avait des ferments, quoi. Les printemps arabes avaient déjà commencé à rendre possible quelque chose qui paraissait totalement improbable avant, quoi, étant donné l'état de dépolitisation et de sécuritarisation de la société, si on peut dire. Et donc là, ça explose à cause de cet événement et ça va se répandre comme une traînée de poudre, on s'en doute. Et au début, ce qui est très frappant, c'est à la fois l'ampleur et le pacifisme qui va se maintenir pendant assez longtemps, pendant toute une année en fait, de la révolution, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un espèce de chevauchement entre ce mouvement pacifiste qui, malgré la terreur et l'aspect sanguinaire de la répression dès le début, va être une espèce de ligne qui va se poursuivre pendant plusieurs années. Et chevauchement avec, du coup, l'entrée dans la lutte armée d'une majorité de Syriens. Enfin, voilà. Du coup, ça, c'est mars 2011. Du coup, la deuxième étape de la chronologie, c'était juin 2011. Militarisation du conflit. Donc voilà, déjà je rentre dans la dimension critique parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, comme je viens de le signaler, c'est-à-dire que la lignée pacifiste va se maintenir et va créer des divisions même au sein de l'insurrection. Cette date a été choisie sûrement. C'est pas totalement faux, c'est-à-dire qu'il y a déjà très tôt, il y a des groupes qui s'organisent, mais pas militairement, quoi. C'est plus le passage à lutte armée comme on l'évoquera à travers une lecture tout à l'heure. Et le 29 juillet 2011, il y a la création de l'armée syrienne libre. Mais c'est pareil, là, c'est assez complexe parce que cette armée, elle se crée. En même temps, au début, elle n'aura jamais une véritable légitimité. C'est-à-dire qu'elle prétend être une espèce de tentative d'unification militaire. Et en même temps, la réalité de l'insurrection, c'est tellement une espèce de multiplicité de groupes. Les gens se mettent à se battre à partir de leur quartier, à partir de là où ils sont, à partir des désertions, à partir de millions de situations différentes. Et du coup, cette tentative d'unification qui se fait en partie de l'intérieur, en partie de l'extérieur, qui va surtout servir à essayer de convaincre notamment les Occidentaux de tisser des alliances, etc. Elle n'arrivera jamais à aboutir à quelque chose de véritablement prégnant et crédible, quoi. Ensuite, la troisième étape, c'était octobre 2011, du coup on est toujours dans la première année, l'opposition s'organise. En fait, qu'est-ce qui se passe en octobre 2011 ? C'est la création de la coalition nationale syrienne, du coup une espèce de prémisse de gouvernement provisoire ou de gouvernement en exil qui cherche à construire une espèce de légitimité, une espèce de crédibilité internationale. Et en fait, ça c'est encore plus que l'armée syrienne libre, c'est complètement coupé de l'insurrection, c'est-à-dire que c'est massivement des exilés, des gens qui avaient un fort capital politique, on va dire, des militants, etc., qui vont créer cette coalition de l'extérieur de la Syrie, à l'initiative, enfin, ou en tout cas en rapport avec les puissances extérieures. Et ça sera vraiment, enfin, les rapports avec l'insurrection vont être très compliqués, même s'ils ne seront pas totalement absents, évidemment, parce que ça va faciliter plein de choses, notamment le financement, l'humanitaire, etc. Mais voilà, du coup, quand on lit sur la chronologie du monde, octobre 2011, l'opposition s'organise, derrière, il faut bien voir que c'est un point de vue purement occidental, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'instance légitimante qui apparaît, notamment pour pouvoir parler avec les Occidentaux, mais que sur le terrain, il y a plein de choses. Et du coup, il faut tenir un peu à ça, c'est ce qui se passe pendant la Révolution, c'est à la fois voilà, un espèce de mouvement qui pullule, qui prend plein de formes, que ce soit militaire ou que ce soit civil, quoi, dans les villes, dans les tentatives d'organisation de quartiers, et qu'il y a à la fois, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, une tentative de centraliser un peu tout ça, de créer des institutions, mais toujours à partir de la base, et que ça va se rejoindre progressivement, mais en dysfonctionnant un peu toujours, par un espèce de mouvement, par l'extérieur, par au-dessus, etc., quoi.
En fait, qui fait une espèce de tentative de récupération de ce truc, on peut le voir ça comme ça ou...
Je sais pas si on peut parler de récupération, mais en tout cas il faut vraiment voir ça comme une initiative qui vient de l'extérieur, où il y a plein d'embrouilles de partis politiques, ce qui est pas du tout le cas, ce qui est complètement rejeté par le mouvement, justement parce que les partis politiques sont vus comme un peu un ferment de division, qui en même temps va faciliter certaines choses, va tenter de prendre en charge par exemple avec l'armée, en se liant avec l'armée syrienne libre, le salaire des combattants pour pouvoir instaurer la lutte dans la durée, et en même temps ça va jamais fonctionner complètement. Du coup c'est pas complètement la récupération, c'est plus que ça tente de chapeauter par au-dessus, et en même temps ça ne fait que dysfonctionner, ça marche jamais vraiment, il y a jamais vraiment une crédibilité ni du point de vue des occidentaux ou des puissances extérieures, ni du point de vue de l'insurrection, quoi. Faut plus le voir comme quelque chose qui échoue, qui effectivement, je sais pas quelles conséquences ça aurait pu avoir.
Une espèce de tentative, et puis
qui facilite certaines choses, qui crée des problèmes à certains autres niveaux, parce que ça crée plein de tensions même au sein de l'insurrection, et voilà, qui globalement arrive pas à son but, quoi, même si ça a permis des choses, quoi. Voilà. Et du coup, de octobre 2011, dans la chronologie, on passe à début 2013, la guerre totale, quoi. Donc là, on a un espèce de saut dans le temps.
Donc c'est toujours selon la chronologie en fait, proposée par Le Monde.
Ouais, voilà. Et du coup, là, on a une espèce de fossé, quoi, entre octobre 2011 et 2013. On voit bien ce qui se passe, alors que c'est peut-être le moment le plus passionnant de la révolution, dans le sens où, en 2012, c'est à la fois le moment où l'insurrection, elle est la plus forte, quoi, où on passe d'une espèce de myriade de petits groupuscules armés à quelque chose de plus organisé, plus décidé. C'est à la fois le moment où il y a des territoires entiers qui sont libérés, où il y a des offensives considérables, plus ou moins aisées, avec des victoires plus ou moins aisées face au régime. C'est vraiment là où ça se consolide, où il commence à y avoir plein d'initiatives locales qui dépassent un peu le stade de l'urgence, de la répression, et qui vont essayer de prendre en charge la gestion des villes, la gestion du quotidien, etc. Et voilà. Et en même temps, ça, effectivement, ça a un point d'arrêt. C'est-à-dire que, étant donné que le régime ne tombe pas alors que tout le monde pensait qu'il tombait, enfin, en tout cas que les Occidentaux pensaient qu'il allait chuter de lui-même parce qu'il paraissait voué, il paraissait condamné, quoi. Et voilà, c'est l'histoire de 2012, quoi. Il y a cette espèce de souffle de l'insurrection, là, hyper fort, qui est à la fois en extension, à la fois en profondeur. Et puis, ça ne suffit pas à faire tomber le régime. Et du coup, on va tomber dans une guerre de position avec un front, avec une territorialisation plus claire, alors qu'avant, ça travaillait un peu au sein même des territoires tenus par le régime. Il y avait plein de mouvements, de contestations armées, etc. Jusque, voilà, et 2013, c'est vraiment le moment où ça se fige, où il y a l'État islamique qui commence à entrer dans le jeu, où il y a les puissances occidentales, les intrigues Russie, USA qui vont venir aussi mettre leur grain, où la question de la durée va avec la question des financements, et du coup l'importance de tous les pays afférents, de toutes les puissances, et du coup ça va aussi avoir des répercussions en termes d'idéologie, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes aidé par telle ou telle puissance, vous allez devoir vous aligner un peu sur certaines positions. Voilà, donc durée égale l'insurrection se fige, quoi. Du coup, début 2013, la guerre totale. C'était marqué ensuite printemps 2013, l'enlisement. Donc l'enlisement, c'est un peu ce que je disais, quoi. C'est après le printemps, je sais pas si vous vous rappelez, mais en août, il y a eu ce fameux épisode des attaques chimiques, là, dans un quartier à l'est de Damas, je crois, dans le Ghouta, espèce de périphérie de Damas, où voilà, il y a 1600 morts, je crois, avec une attaque au chlore par le régime. Et ça avait été désigné comme une ligne rouge par Obama, quoi. Il disait, là, c'est la ligne à pas franchir, si elle est franchie, les USA, qui étaient vraiment très réticents à intervenir, interviendront, quoi. Et en fait, ça se passe pas, c'est un peu le tournant, on pourrait dire, de la révolution en termes de l'implication occidentale, quoi. C'est-à-dire que là, il y a tout un jeu d'intrigues avec la Russie, qui fait que y a il y a les prémices d'une intervention occidentale avec les USA, la France et les Britanniques. Finalement, ça échoue. Finalement, la Russie permet, avec une négociation autour des armes chimiques, aux Occidentaux à repartir de ça avec un peu la tête haute. Et voilà, et c'est la Russie qui emporte le jeu. C'est elle qui va être déterminante dans ce qui va se passer, qui va permettre de renforcer le régime, etc. Et jusqu'à un an plus tard, l'arrivée de l'État islamique, les Occidentaux vont rester un peu, voilà, posture de retrait, comme ça, quoi. Et voilà, et pour finir la chronologie, c'est ça, été 2014, implantation de l'État islamique. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'État islamique, il commençait à se répandre depuis l'Irak jusqu'en Syrie, à essayer de construire un axe stratégique depuis du coup l'Est, depuis l'Irak jusqu'en Syrie depuis un moment. Mais il a eu une espèce de stratégie assez fine, et il faut le reconnaître, quoi. C'est voilà, au lieu d'arriver dès le début comme une espèce de puissance guerrière, ils ont commencé par prendre le contrôle de villes un peu mineures, mais qui étaient sur des axes stratégiques, des choses comme ça, sans trop chercher à combattre. Et puis petit à petit, en fur et à mesure qu'ils s'implantaient, ils ont commencé à il a commencé à avoir des escarmouches avec l'insurrection. Ensuite, quand ils étaient encore plus forts, avec le régime. Et puis au bout d'un moment, ils ont déclaré le califat. Ça, c'est l'été 2014, quoi. Ils déclarent le califat, ils s'installent, ils prennent le contrôle vraiment comme une puissance étatique, quoi. Et ils arrêtent de faire leur espèce de stratégie de grignotage, quoi. Voilà, et du coup, c'est à partir de ce moment-là que la communauté internationale se décide à agir. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que les Kurdes, il va y avoir un revirement dans la politique kurde qui était assez douteuse, comme on pourra peut-être en discuter après, qui était assez douteuse vis-à-vis de l'insurrection, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'ennemi commun, quoi, l'État islamique, ça vient un peu transformer trop de toutes les positions, à la fois de la communauté internationale, à la fois des Kurdes, à la fois des Turcs, etc., et qui va faire un peu une coalition nouvelle, quoi. Voilà, et ensuite, la chronologie, elle se terminait sur été 2015, crise migratoire mondiale. Alors, ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que... Enfin, c'est un peu bizarre de parler juste de chiffres, quoi, mais la question de la migration, voilà, ça concerne... Il y a plus de la moitié des Syriens qui ont été déplacés, c'est-à-dire qui habitent plus chez eux, quoi. 5 millions, du coup ça fait 10 millions de personnes, 5 millions qui sont réfugiés, c'est-à-dire qui ont quitté leur pays pour d'autres, et il y en a, je sais pas, 2 millions ou 3 millions, je crois, en Turquie, quoi. Du coup, en gros, les Syriens, ils sont surtout en Turquie, en Jordanie, au Liban, etc., dans les pays qui sont juste à côté de la Turquie, et il y en a une minorité qui sont arrivés jusqu'en Europe. Voilà. Du coup, je sais pas... Il nous reste pas énormément de temps, mais je peux revenir un petit peu sur du coup le livre.
Donc, en fait, il nous reste encore moins de temps que ce que tu penses. Et je crois qu'il va falloir qu'on arrête.
Il nous reste 5 minutes, on peut faire une petite...
Il nous reste 3 minutes.
Ah ouais, ok. Alors, bah, juste, donc, je vous invite à venir mercredi au Tannery pour la lecture de « Syrie, anatomie d'une guerre civile ». Et je vais juste présenter un peu les trois moments qui sont mis en lumière dans le livre. Du coup, l'improbabilité du mouvement pacifique, quoi. Du coup, l'arrivée d'un mouvement qui était improbable en Syrie. Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, le passage à la lutte armée. Du coup, c'est peut-être là-dessus qu'on s'arrêtera notamment sur qu'est-ce qui fait que comment les gens se mettent à lutter, à partir de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? L'administration un peu de la vie, l'organisation de la vie pendant l'insurrection, au moment où c'est le plus puissant, quoi, en 2012, de 2011 à 2012, quoi. Tous les enjeux autour de ça, et ensuite la fragmentation, tous les enjeux transnationaux, toutes les intrigues diplomatiques avec les puissances extérieures, et comment il y a une espèce d'enlisement et de fragmentation et de division de l'insurrection à partir du moment où ça prend trop de temps et où il y a toutes les puissances extérieures qui viennent dans le jeu. Et on insistera particulièrement sur l'implication des Kurdes, voilà, autour de... Voilà, on se questionnait sur c'est quoi les Kurdes, c'est quoi leur histoire propre, quel rapport ils ont eu avec l'insurrection, qui n'est pas du tout si univoque que ça. Et on essaiera de discuter à partir de ça, de nous, comment ça nous touche, et qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, et comment on pourrait, à l'avenir, être un peu plus présent là-dedans, à la fois face à notre gouvernement, à la fois en soutien à ce qui se passe là-bas. Et voilà, l'enjeu, c'est un peu de se poser cette question-là, collectivement. Du coup, vous êtes les bienvenus.
D'ici là, pour vous préparer simplement, sans avoir à lire tout, Syrie, anatomie d'une guerre civile, vous pouvez lire les chroniques, rejoindre le Rojava, qu'on trouve sur Lundi Matin, le site Lundi Matin, et qui sont vraiment intéressantes, qui racontent le voyage au Rojava de quelqu'un qui veut aller participer à la guerre civile là-bas. Et vous pouvez aussi lire Kobané Calling de Zero Calcare, qui est quand même une BD, et du coup, ça fait plaisir quand on n'aime pas trop la géopolitique et l'histoire, comme moi, par exemple. Et qui raconte les voyages de Zero Calcare à Kobané, et qui est vraiment passionnant. Voilà, nous on se retrouve dans une semaine, et puis on vous retrouve aux Tanneries à 18h mercredi pour Syrie, Anatomie d'une guerre civile. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission et trouver toutes les autres sur le blog de Vacarme en Réunion, tvnr.noblogs.org. Voilà, on se quitte avec de la musique kurde, puisque c'était un peu le thème de cette émission.
Et bien salut, à mercredi aux Tanneries, j'espère.
Ciao.
Kim do wasn't be mad at what it showed it. The low I'm doing.